France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment la littérature jeunesse aide les enfants et les ados à philosopher, c'est notre thème ce matin. Comme le rappelle l'une de nos invitées, Edwige Schirouter, dans son dernier livre, les enfants sont capables d'un travail de pensée philosophique si on leur donne les ressources culturelles. Selon elle, la littérature permet de se décentrer, de penser par soi-même, et c'est possible dès l'école maternelle grâce à une abondante littérature jeunesse de qualité. La fiction qui reste puissante pour donner du sens à notre vie dès les premières années. La littérature jeunesse qui leur permet également de mieux comprendre le monde qui les entoure. Et vous racontez-nous ce que vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces ou élèves apprennent grâce à la littérature jeunesse. C'est l'occasion également ce matin de vous recommander quelques bons livres avant les vacances d'été. 01 45 24 7000 sans oublier l'appli Radio France en laissant message et note vocale. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse.
Et puis il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, rencontra le renard.
Eh oh, viens jouer avec moi.
Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé.
Que signifie apprivoiser?
Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Extrait du Petit Prince de Marc Osborne. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Alice.
Rédacteur en chef du Hebdo. Vous nous disiez en antenne que votre fils a toujours détesté le Petit Prince, c'est ça?
Mais c'est un livre que je pense énormément de parents voudraient que leurs enfants aiment. Et c'est peut-être un livre qui parle plus aux parents, quoi.
Bonjour Edwige Schirouter.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en philosophie et sciences de l'éducation, titulaire de la chaire UNESCO pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue. Et vous venez de publier à l'école des lettres À quoi pense la littérature de jeunesse, des enfants, des questions, des histoires. Bonjour Maxime Massol.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Chantelivre à Paris. Bonjour Lucie Cosmola.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice et formatrice en littérature jeunesse. Bonjour Titu Lecoq.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, romancière et vous dirigez au Livre de Poche Jeunesse une collection qui s'appelle Le Livre de mes 10 ans. Racontez-nous, allez, en quelques mots, on va y revenir largement ce matin, cette collection.
L'idée que j'ai eue, c'est de demander à des autrices et des auteurs adultes le livre qui les avait marqués à 10 ans et le republier avec une petite préface de l'auteur. Et sur les 5 premiers qu'il y a, j'ai un très beau casting, Nicolas Mathieu, Mona Chollet, Marie Darrieussecq, Alice Zeniter et Gaëlle Faye.
Et c'est un très beau casting et ils ont choisi notamment, on va y revenir, Ils étaient 10 d'Agatha Christie, Le perroquet qui bégayait d'Alfred Hitchcock ou encore Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Et vous nous direz, vous, le livre qui vous a marqué lorsque vous étiez au CM2 à l'âge de 10 ans, vous étiez peut-être en 6e, en avance, je ne sais pas.
Non, j'étais pas en avance. Bon.
Dites-nous, au 01 45 24 7000, quels sont les livres qui vous ont marqué quand vous aviez 10 ans? Alors, Edwige Schirouter, votre thèse, c'est que la littérature jeunesse permet aux enfants de réfléchir, de philosopher. Vous célébrez dans ce livre les pouvoirs de la fiction comme outil de réflexion pour donner du sens à sa vie et pour mieux déchiffrer le monde. Et je vous cite, la littérature se rapproche des fonctions mêmes de la philosophie, penser le monde pour le mettre en lumière, pour le rendre intelligible et y agir en toute confiance.
Oui, je pense que c'est...
Et ça commence dès les premières années, dès la maternelle.
Absolument, dès que les questions se posent. En fait, moi j'ai découvert la philosophie avec les enfants grâce à ma fille qui a 28 ans aujourd'hui. Voilà, c'est fait, joyeux anniversaire Adèle. Et moi je suis prof de philo, j'ai été instruite, formée dans un moule universitaire où jamais j'avais entendu parler de philosophie avec les enfants. Et pour moi, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, ça me semblait en fait impossible, incompatible, parce que la philo, c'est Kant, c'est Hegel, c'est la dissertation écrite. Et c'est grâce à mes enfants en fait que je me suis intéressée véritablement au sujet, parce parce que, bah, comme tous les enfants du monde, mais moi je le savais pas, hein, j'étais jeune maman, je le découvrais, bah, il se pose plein de questions philosophiques. Est-ce que le premier homme avait une maman? Est-ce qu'on est obligé d'être gentil avec tout le monde? Pourquoi il est bizarre le monsieur? Et quand mes enfants m'ont posé ces questions-là, ben j'ai fait comme moi j'ai fait dans ma propre vie, c'est-à-dire je me suis tournée vers la littérature. Et j'ai découvert que la littérature de jeunesse, ben, c'était pas que Martine et Tchoupi, même si on pourrait en reparler, ils ont une fonction aussi, mais c'était aussi Claude Ponty, Solo Tarev, Kitty Crozer, enfin, que des très grands auteurs, autrices, et qu'il n'y a pas de différence entre la littérature de jeunesse et la littérature générale. On a besoin de se réfugier dans un lieu qui est la fiction pour revenir à la réalité, mais une réalité qui sera éclairée.
Et pour vous, Edwige Schirrutter, il n'y a pas de frontière entre littérature et philosophie?
Non, non plus, parce qu'on a besoin de discours, on a besoin de paroles, on a besoin de rencontres, en fait. On se pose ces grandes questions qui sont angoissantes, qui sont bouleversantes, qui sont déstabilisatrices, et on a besoin d'aller à la rencontre de discours, de personnes qui vont nous dire, ces personnes, ça peut être dans la vraie vie, mais ça peut être aussi des personnages, ça peut être aussi des auteurs, qui nous offrent une vision du monde qu'on va rencontrer et avec laquelle on va dialoguer.
Alors l'un des grands paradoxes de la fiction, vous l'expliquez dans votre livre, c'est que nous voulons échapper à la réalité en plongeant dans la lecture d'un roman. Je vous cite, hein, c'est cette même fiction qui nous ramène à notre propre réalité en nous la donnant à voir sous notre réalité. Et je vous cite à nouveau, l'échappée belle dans le monde de la fiction nous conduit vers cette réalité, une réalité revisitée à la lumière de cette fiction qui a bouleversé la donne de nos certitudes.
La littérature, pour moi, c'est vraiment comme un lieu, plus qu'un outil ou un levier, mais c'est un lieu où on va se réfugier. Il y a deux grandes fonctions. Enfin, je suis schématique, hein, forcément, mais et ça, vous voyez, vous allez tous comprendre que c'est vraiment à tout âge. Hein. C'est de zéro jusqu'à ce que mort s'en suive. On a besoin de se réfugier dans la fiction pour se divertir, parce que le réel est difficile. Enfin, c'est le divertissement pascalien. Enfin, en gros, on va mourir, hein, faut le savoir. Mais on le sait. Hein, mais faut pas trop l'oublier. Et puis, le monde est difficile, hein, c'est pas la peine. Il suffit d'écouter les informations pour savoir que le monde est très angoissant. Et donc, on se réfugie dans la fiction pour se vider la tête, pour oublier le réel. Et on va tous aller sur Netflix ou ouvrir un livre où on sait pertinemment que ça nous fera pas réfléchir. Et nous en avons besoin. Et ça, il faut pas dénigrer cette fonction qui est essentielle. Et puis, il y a une autre fonction sur laquelle moi je travaille plus, évidemment, en tant que philosophe. C'est qu'on va se réfugier dans la littérature, non pas pour oublier le réel, mais au contraire pour mieux le comprendre. Parce que je vais pouvoir vivre dans la fiction bah, des histoires d'amour, des dilemmes moraux que le réel seul ne m'offrira jamais. Et ça va me permettre de confronter à des expériences nouvelles et donc à mieux réfléchir sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la justice. Et puis ça crée aussi, on y reviendra peut-être, mais une bonne distance affective. Je vais pouvoir réfléchir sur l'amour, l'injustice, la mort, mais pas à partir de ma propre expérience parce que c'est trop anxiogène. Mais les personnages vont servir un peu de paravent.
Et si les histoires, les fictions sont si importantes, notamment à cet âge-là, c'est qu'elles nous permettent, elles permettent aux enfants notamment de donner du sens à ce qu'ils vivent.
Oui, bien sûr, parce que quand on aura confronté avec les personnages un dilemme moral ou une histoire d'amour, eh bien, on aura réfléchi sur qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est qu'une loi juste, qu'est-ce que c'est qu'aimer véritablement quelqu'un. Et cette réflexion qu'on aura fait dans ce que Ricoeur appelle, j'adore cette formule.
Paul Ricoeur.
Ouais, Paul Ricoeur, le grand laboratoire de l'imaginaire. Bah, dans ce grand laboratoire de l'imaginaire, une fois revenu dans le réel, bah, le réel sera éclairé par les distinctions qu'on aura faites, les précisions qu'on aura faites, les définitions qu'on aura faites. Sur ce que c'est que la justice, sur ce que c'est que l'amour, sur ce que c'est qu'un bon choix.
Edwige Schirrutter, il existe un consensus scientifique aujourd'hui sur l'importance de la littérature de jeunesse dans le développement affectif et intellectuel des enfants et des adolescents.
Oui, ça fait quand même très très longtemps que psychologues, anthropologues, philosophes travaillent sur l'apport de la fiction, bah déjà Aristote, hein, de toute façon, donc ça fait effectivement très longtemps. Mais oui, il y a quand même un consensus sur cette nécessité d'avoir accès à des grands textes. Et ça, je pense que c'est une question qui est politique. C'est comment aussi, nous, collectivement, nous donnons les moyens politiques pour que des institutions comme l'école, comme les bibliothèques, puissent être vraiment des lieux où tous les enfants, quelles que soient leurs origines, aient accès à cette fonction.
Et puis n'oublions pas que les contes de fées de tradition orale apportaient des nourritures affectives et intellectuelles aux enfants.
Oui, et on sait aussi que ces contes qui étaient lus à la veille, etc., n'étaient pas du tout réservés aux adultes, mais que les enfants les écoutaient déjà. Et je pense que la littérature dite de jeunesse, en fait, c'est une littérature qui est aussi pour la jeunesse. Et que tous les parents savent qu'un bon album, eh ben on adore aussi le lire, l'écouter, et c'est à ça qu'on reconnaît un album de qualité.
Le regard du libraire, Maxime Massol.
Oui, bah tout ça est tout à fait passionnant et c'est vrai que on a beaucoup d'adultes qui viennent à la librairie et qui se posent des questions sur ce que les enfants vont lire, qui s'investissent réellement dans le choix des textes, tout simplement parce que, comme vous dites, ils vont les partager avec les enfants et ça va être un moment un peu de communion et de communication. Et moi, j'invite très très souvent d'ailleurs les parents à lire. Peut-être pas tout, mais au moins une partie des livres que les enfants ont adorés ou les adolescents ont adorés, parce que ça veut dire beaucoup d'eux, et ça permet de créer justement du dialogue et de réfléchir sur des concepts et sur des choses inspirantes de la vie, bien sûr. Ouais.
Lucie Cosmala.
Oui, en plus des concepts moraux, des expérimentations de l'amour, etc., je trouve qu'aussi la littérature jeunesse, c'est une confrontation avec une altérité, avec des personnages qu'on n'a peut-être pas autour de nous, et on fait connaissance aussi avec le monde, à la fois avec des nouveaux paysages, pour les enfants qui viennent de la ville, ils vont découvrir la campagne, et vice-versa, et vont aussi s'ouvrir à, peut-être à une diversité d'humains qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer grâce au livre.
Titu Lecoq.
Oui, bon, c'était rigolo parce que quand j'ai contacté les auteurs, les autrices qui ont accepté de participer à la collection, les choix de livres qu'ils m'ont donnés, donc ce que, voilà, je ne sais pas, prenons Gaëlle Faye a lu à 10 ans.
Ils étaient 10 d'Agatha Christie,
ouais,
anciennement Les 10 Petits Nègres.
Exactement. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est rigolo parce que moi, ça éclaire ma lecture de leurs œuvres d'adultes. Et c'est là où, effectivement, ce qu'on va lire à 10 ans et avant, ça nous forge quand même un imaginaire qui va nous suivre toute notre vie. Et je trouve vraiment, genre, Le perroquet qui bégayait, qui est le choix de Nicolas Mathieu, qui était aussi un de mes livres de mes 10 ans, quand il a choisi ça, je me suis dit, ah, mais je vois trop, en fait, mais dans leurs enfants après eux, mais bien sûr, je vais retrouver des choses. Et donc, ça nous suit vraiment très, très fort, je pense.
Le perroquet qui bégayait d'Alfred Hitchcock. Ouais. Mais au fond, Titu Lecoq, mais on va y revenir au cours de cette émission, est-ce qu'on sait vraiment pourquoi un livre nous marque à cet âge-là, à 10 ans est-ce qu'on sait vraiment pourquoi?
Alors non, moi une surprise, ça a été Le fantôme de Canterville, le choix de Marie Darrieussecq, que
Wilde.
J'avais lu aussi, je pense, à 10 ans et que j'avais adoré. Et là, en le relisant, déjà, je me suis rendu compte que la traduction n'avait pas été revue depuis les années 50. Donc quand je l'ai lu, c'était absolument incompréhensible. Je ne sais pas comment j'ai compris quelque chose. Et en fait, j'avais le souvenir, j'avais aimé l'ambiance, mais j'étais passée à côté des trois quarts du livre, quoi. Donc et pourquoi j'avais autant aimé ce livre alors que... Voilà. Et la même chose pour Marie Darrieussecq. Donc non, je pense qu'il y a un truc d'ambiance, il y a... C'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir quel livre va plaire à quel enfant. Et qu'il faut tester.
Et vous nous direz quel était le livre qui vous a marqué quand vous aviez 10 ans, quand vous étiez en CM2, donc. Julien Bisson, le menu de votre chronique, Ma vie de parent.
Eh bien, on va essayer de se demander si on peut vraiment dicter les lectures de nos enfants.
Vaste question.
Grand bien vous fasse.
Alors Peter Pan, qu'est-ce que tu fais si t'enlèves la magie? C'est quand même un adolescent qui toque aux portes des chambres de gamins qui dorment pour leur proposer de la poudre qui les emmènerait dans le pays imaginaire. On est plus proche d'un dealer de Stalingrad que d'un gamin abandonné avec des collants et un elfe.
Sur France Inter.
Comment la littérature jeunesse aide les enfants à mieux vivre avec Edwige Chirouter, Maxime Massol, Lucie Cosmala et Titu Lecoq. Je vous propose d'écouter Daniel Salnave sur France Culture en 2001.
Ce que je crois, c'est que si on cesse de faire passer les enfants précisément par le chemin de la littérature, effectivement, on les coupera d'une compréhension profonde de l'existence. De même que les voyages ne forment pas la jeunesse, il faut d'abord être formé pour que les voyages vous forment. Apprendre à écouter, apprendre à regarder. Je pense que la littérature est une espèce d'extraordinaire théâtre où sont absolument multipliées les situations humaines possibles et dont on peut faire une épreuve qui vous touche puisqu'elle passe par votre imaginaire et même par votre corps, mais en même temps n'intervient pas dans votre vie réelle, mais constitue cette capacité à raisonner, à répondre, à être là, à éveiller. Quoi, éveiller quoi? L'intelligence, la réflexion, mais aussi à ouvrir les âmes, tout simplement.
L'académicienne Danielle Salnave sur France Culture en 2001, ça vous inspire quoi, Edwige Chirouter? Je rappelle que vous publiez À quoi pense la littérature de jeunesse?
Oui, je suis absolument d'accord. En écoutant, je repensais aussi, en ce moment, à l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les questions d'empathie, l'éducation à l'empathie, les cours d'empathie, etc. Et j'avais manifesté plus que ma méfiance envers ces dispositions que je trouvais un peu contre-productives dans des injonctions un peu violentes, finalement, à la gentillesse, etc. Alors que la littérature, et on le sait, on en parlait tout à l'heure, il y a des milliers d'années d'études et de réflexions sur ce que nous apporte la fiction, alors que la littérature de jeunesse, jeunesse. C'est vraiment une école aussi de l'empathie ou de l'altérité, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est ça qu'à l'école, on devrait effectivement forger et avoir plus d'heures de formation pour les enseignants, etc. Et pour les bibliothèques et le service public, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment une façon politique aussi de défendre ce rapport aux humanités.
Vous parliez d'empathie, évidemment, la littérature, c'est un moyen de vivre d'autres vies que la sienne. Une question que nous n'avons pas encore abordée, Edwige Chirouter, c'est quoi exactement la littérature jeunesse, sans entrer dans des débats de spécialistes? Tout d'abord, c'est une littérature à part entière. D'ailleurs, c'est assez récent, la fin du mépris pour cette littérature jeunesse. Mais c'est quoi, grosso modo?
Moi, j'aurais plutôt envie de dire d'abord qu'elle n'est pas à part entière. J'ai envie de dire, et j'aime bien cette formule-là, c'est une littérature qui est aussi pour la jeunesse. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les parents, ou les grands-parents, enfin n'importe quel éducateur qui lit des albums à ses enfants le soir, en fait, il y éprouve aussi à la fois beaucoup de plaisir, de joie, d'humour, de rigolade, mais aussi de matière à réflexion. Et c'est une grande force de la littérature de jeunesse. Il ne faudrait pas la cloisonner en disant c'est que pour les enfants, c'est aussi pour les enfants. Par contre, il y a une spécificité, c'est qu'on s'adresse à des mineurs et donc il y a une loi qui existe, hein. D'ailleurs on ne peut pas publier tout et n'importe quoi, dire tout et n'importe quoi aux enfants, je pense qu'on peut parler de tout, mais il y a une spécificité qui est propre justement à l'enfance, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir aux enfants, même en parlant de la mort ou de la violence ou de l'injustice, une vision cynique et désespérante de l'humanité. Il faut toujours qu'il y ait de l'espoir. Et les contes de fées se terminent toujours bien pour le héros et l'héroïne, contrairement au mythe, par exemple.
Vous êtes d'accord avec ça, Titou Lecoq? Je rappelle que vous dirigez la collection Le Livre de mes 10 ans au Livre de Poche Jeunesse.
Oui, j'étais en train de me demander, du coup, est-ce que j'ai des contre-exemples de livres qui finissent mal, mais et sur le côté aussi sur la philo et sur ce que les enfants peuvent saisir dans les concepts. Moi, ça m'a frappé sur donc un des livres, c'est Le Château des enfants volés, qui était plus disponible en France.
De Maria Grippe.
Ouais, et c'est le choix de Mona Chollet, et c'est un texte donc que je ne connaissais pas et que j'ai découvert adulte. Que j'ai trouvé magnifique et qui a cette force d'être ultra symbolique. Et dedans, il y a notamment une histoire d'amour entre une bergère et un prince. Voilà, ils sont très amoureux et le prince, dès que la bergère veut quelque chose, il lui offre, etc. Et à un moment, elle décide de ne plus rien désirer pour qu'il arrête de lui voler ses désirs. Et je dis, la force de ça, moi, alors, en tant que femme de 45 ans féministe, le lisant, j'étais là genre, waouh, mais c'est trop beau. Et je me dis, mais un enfant, même s'il n'y voit pas tout le côté symbolique, je suis certaine qu'il y a quelque chose qui, effectivement, impacte les esprits à ce moment-là. Et donc, cette question de sens et de ce qu'on pressent du monde adulte qui nous attend, je pense que voilà, ça se joue beaucoup aussi dans cette littérature.
Le Château des enfants volés de Maria Grippe. La littérature jeunesse, Edwige Chirouter, c'est un terrain fécond hein, pour donner du sens à ce que l'on vit, pour philosopher. Comme le disait ce bon vieil Épictète il y a 2000 ans, on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. Et à propos de la philosophie avec les enfants, vous dites qu'il s'agit d'une pratique pirate. Certains, d'abord, vous pourrez vous rétorquer qu'il ne s'agit pas de philosopher quand on philosophe avec des enfants. Mais c'est quoi cette pratique pirate ?
La philosophie, c'est vrai qu'elle est pirate parce que si on regarde le cas français, mais c'est pas une exception, en tant que discipline scolaire, elle est enseignée qu'au lycée, c'était lundi le bac philo. On oublie juste en France de rappeler que c'est les lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels, où il y a de la philosophie, et ce qui exclut l'immense majorité des enfants des classes populaires qui n'ont même pas accès à cette seule année de philosophie. Donc moi, mon travail en tant que chercheur, c'est comment on peut démocratiser l'accès à la philo bien avant cette seule année de terminale, et de permettre, dès que les questions se posent, dans l'étonnement devant le monde, et ben de faire ce cheminement. Parce que philosopher, c'est difficile. C'est pas parce que c'est facile qu'on pourrait le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt et démocratiser cet accès-là à tous et toutes.
On pourrait vous rétorquer, c'est pas vraiment de la philosophie quand on fait ça avec des classes de maternelle, de CP, de CE1, de CE2.
Mais ça veut dire que ça pirate aussi nos représentations de ce que c'est que la philosophie, qui n'est pas qu'un exercice académique, c'est aussi ça, c'est aussi un travail sur les textes de Kant, Hegel et la dissertation écrite. Mais la philosophie, Épicure et plein de philosophes grecs et Montaigne le disaient aussi, c'est aussi une pratique et c'est une expérience. Et ce qu'on fait dans la philo avec les enfants, c'est aussi une expérience qu'on fait de façon collective. C'est de la coopération intellectuelle. La classe se met en cercle et on s'empare de cette grande question intemporelle, universelle, difficile. Et on va se prendre un temps, voilà, qui va être une heure ou qui va être un mois sur la question. Et on va réfléchir collectivement ensemble pour essayer de trouver des réponses. Voilà.
Et comment vous y prenez-vous pour aborder un sujet angoissant, délicat, même vous le rappelez de façon très juste, hein, les enfants savent très bien que l'injustice, la violence, la mort, ça existe. Mmh. Comment vous faites pour aborder ces questions difficiles?
Les ateliers commencent quasi exclusivement par la lecture d'un album dans mon dispositif. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, on va dire aux enfants qu'on va traiter cette question-là, qui est difficile, intemporelle, universelle, et que nous avons besoin d'aller à la rencontre des idées. La rencontre des idées, ben, on va le faire justement dans les histoires, avec les personnages, et on va se mettre à leur place. Souvent, je demande, par un dilemme moral, par exemple, on va demander, si vous étiez le meilleur ami du personnage, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? On les met en petits groupes, ils doivent trouver des arguments, voilà. Et donc, on finit par avoir des définitions un peu collectives sur qu'est-ce que c'est qu'un bon choix, faut-il toujours dire la vérité? Et ils ressortent de l'atelier en disant, bah, moi, je suis plutôt sur cette thèse-là, moi, sur celle-là, etc.
Ce qui est très angoissant, vous le dites dans votre livre, c'est de ne pas aborder les questions délicates comme la mort, et de les laisser seuls avec leurs interrogations. Or, sur la mort, par exemple, vous prenez appui sur un livre comme « Bonjour, Madame la mort » de Pascal Telade et Jean-Charles Sarrazin, publié à l'École des loisirs.
Ouais, bien sûr. Alors, la mort n'est pas du tout un sujet tabou en littérature de jeunesse. Il y en a plein. Et avec les enfants, quand on fait des ateliers, des séquences sur « Faut-il avoir peur de la mort ?», on fait des distinctions qui sont des distinctions philosophiques qu'on retrouve en terminale. Par exemple, « Vivre et exister ». C'est-à-dire que les enfants comprennent que même si on n'est plus vivant, on peut continuer d'exister, et notamment dans le souvenir, dans la mémoire, dans le cœur. Coco, le dessin animé Coco, il montre très bien ça. Parce que dans le royaume des morts, l'obsession justement des morts, c'est de continuer à avoir quelqu'un qui, sur Terre, va se souvenir d'eux pour continuer d'exister.
Une façon d'aborder la mort, titule Lecoq, c'est de lire « Ils étaient 10 » d'Agatha Christie, parce qu'ils sont 10 à être assassinés. Il n'y a pas d'enquêteur d'ailleurs.
Mais ça fait que c'est le lecteur et la lectrice qui enquêtent. Et c'est rigolo, la préface de Gaël Faye, il explique que son coup de foudre pour ce livre quand il était petit, c'est parce que c'est la première fois qu'il a lu un livre et qu'il s'est rendu compte que ça pouvait être comme un jeu de société. Et j'ai trouvé ça très fort. C'est ça qui l'a embarqué là-dedans, c'est de se dire, en fait, oui, je suis en train de jouer avec Agatha Christie, et est-ce que je vais réussir à deviner avant la fin du livre?
Et Ils étaient 10 permet d'analyser les ressorts profonds qui peuvent amener à commettre l'irréparable.
Ah, puis là, ils sont tous horribles, hein, les personnages sont vraiment tous affreux. À la fin de chaque livre, je fais un petit test de personnalité, et pour celui-là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme test? Et mon test, c'est quel coupable es-tu? Et je suis d'accord sur le côté, bah oui, on s'adresse aux enfants, on peut y aller vraiment très très cash sur ce genre de sujet.
Maxime Massol de la librairie Chantelivre.
Oui, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le caractère disruptif, finalement, de tout ce qu'on vient de citer, parce que ça fait bouger les lignes, ça interroge, et je vois, par exemple, on faisait des ateliers philosophie à la librairie Chantelivre d'Orléans, et dès la première newsletter où on a proposé ces ateliers, Marlène, donc la responsable de la librairie, me disait qu'elle avait eu tout de suite plein de candidatures d'enfants et de parents qui étaient intéressés, et c'était des enfants de 7 à 13 ans à peu près, et effectivement, ils n'hésitaient pas à aborder tout un tas de sujets parfois difficiles, et c'était toujours un succès avec les enfants qui étaient très réceptifs.
Allez, j'aimerais qu'on en vienne au choix de notre club de lecture jeunesse, avec des idées de livres pour les vacances d'été. Lucie Cosmalin, on commence avec vous, avec Des nœuds au cerveau. C'est signé Estelle Von Feld et Marie Deligny. C'est publié aux éditions Un dimanche après-midi, et c'est à partir de 5 ans.
Oui, alors dans Des nœuds au cerveau, on a un personnage qui, je pense, n'est volontairement pas genré. Ce petit personnage, c'est un enfant qui se réveille tous les matins tout de suite assailli par plein de pensées différentes, donc plein de fils de pensées diverses et variées, et toutes ces pensées vont prendre beaucoup de place jusqu'au soir. Hein, on sait à quel point parfois on peut un peu trop réfléchir avant de dormir. Et c'est quelque chose qui est un petit peu douloureux pour lui au début, parce que voilà, il sent qu'il n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe autour de lui, que ça le coupe un petit peu, ça le déconnecte un petit peu des gens autour de lui. Et un jour, la tante de ce personnage, de cet enfant, va lui dire « Mais avec tous ces fils de pensée, on peut tricoter, on peut tisser, on peut faire des pompons. » Et même si voilà, l'enfant va pas tout de suite comprendre exactement ce que sa tante veut dire, va dire « Non, mais c'est vrai que en fait, ça développe quand même une certaine sensibilité. Je sens que je ressens des choses particulières quand j'écoute de la musique, par exemple. Ou que je peux avoir un humour, je peux avoir une vivacité d'esprit à tel point que c'est moi qui vais faire des nœuds au cerveau des gens autour de moi. » J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet album, parce que je crois que c'est la première fois que je vois cette thématique, d'avoir un cerveau très très actif. Hein. Je vois à quel point ça peut être utilisé à la fois pour parler d'anxiété, pour parler de neuroatypie aussi, ce genre de sujet. Et je pense que ça peut résonner chez beaucoup d'enfants qui peut-être ont du mal à s'endormir le soir.
Ça s'appelle « Des nœuds au cerveau ». C'est signé Estelle Von Felt et Marie Deligny aux éditions Un dimanche après-midi à partir de 5 ans. Maxime Massol, vous avez choisi « Les vacances d'une fille bancale », un roman écrit par Laure Monloubou, illustré par Robin. Et c'est publié chez Amatera.
Oui, alors moi j'ai fait une sélection très vacances, hein, vous verrez. Donc c'est l'histoire de Pénélope qui a 13 ans et qui est désespérée parce que sa mère l'envoie passer les vacances d'été chez son oncle et sa tante. Donc ça veut dire être dans un coin perdu d'après elle et devoir supporter son cousin, sa cousine qui n'ont jamais été vraiment sympas avec elle. Donc c'est la catastrophe. Mais heureusement, comme vous pouvez l'imaginer, bah, y a rien qui va se passer comme prévu parce que il va y avoir des rencontres qui vont illuminer ses vacances. Il se pourrait même qu'en grandissant, son cousin, sa cousine soient devenus plutôt sympas, qu'ils aient changé. J'ai vraiment adoré ce roman, je l'ai trouvé écrit avec une simplicité vraiment rafraîchissante. Il y a le jeu qui est utilisé qui donne un côté un peu journal intime, ça s'appelait souvent pour le coup aux jeunes lecteurs. Ça sonne très juste et notamment le traitement du handicap parce que notre héroïne Pénélope a une jambe plus courte que l'autre, donc c'est pour ça qu'elle est bancale comme nous dit le titre.
C'est le cas de Julien Bisson aussi, je crois qu'il a une jambe plus courte que l'autre.
Enfin voilà,
c'est gratuit, plaisante évidemment.
C'est une information. C'est une réussite totale, ça permet de réfléchir à l'amour, à l'amitié, la confiance en soi et surtout l'importance de trouver des figures inspirantes pour grandir et qui nous ressemblent. Donc ça, je trouve que c'est une thématique vraiment chouette. À partir de 10-11 ans, c'est super pour mettre dans la valise pour les vacances.
Les vacances d'une fille bancale de Laure Monloubou, illustré par Romain, c'est chez Amatera. C'est quoi ce livre, Titou Lecoq, donc Poisson Fesse, publié aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est signé Pauline Pinson et Magali Lehuche. Poisson Fesse.
Oui, alors c'est un énorme carton en librairie, donc vraiment j'ai pas trouvé la petite pépite, mais j'ai encore des amis qui ne l'ont pas lu, je vais vraiment dire à tout le monde, non mais il faut absolument lire Poisson Fesse. Alors donc là on est plus pour les 3-6 ans, on peut monter jusqu'à 45, hein, facile, vraiment ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est un album, donc c'est l'histoire d'un poisson qui ressemble à des fesses et qui a pas beaucoup d'amis. Chacun ses difficultés dans la vie. Les dessins de Magali Lehuche sont
super,
incroyables.
Très drôle.
Et je trouve que ça a réussi quelque chose, ça a réussi à faire rire les adultes et les enfants. Ce qui est compliqué parce que moi, avec mes enfants, il y a des fois, je leur ai lu des livres que je trouvais hyper drôles, mais alors ça passait pas du tout chez eux. C'était trop de second degré ou d'ironie. Et là, vraiment, ça marche sur toutes les générations. Et c'est, pour moi, c'est un classique. C'est un peu il y a eu Caca Boudin, Stéphanie Blake. C'était vraiment un monument. Et je pense que Poisson Fesse va arriver au stade de Caca Boudin.
Maxime Assol.
Oui, juste, je viens de voir qu'il avait été traduit dans 12 langues, donc quand même bravo pour Poisson Fesse, et 65 000 exemplaires vendus en France, donc effectivement, c'est assez impressionnant. Ouais.
La réaction de votre fils, Julien Bisson, face à Poisson Fesse?
Mais il l'a vu l'autre jour en librairie, je l'emmène parfois...
Alors, l'âge de l'enfant, tu vois.
Alors, l'âge de l'enfant, il a 9 ans.
Voilà.
Je l'ai emmené en librairie pour lui dire, regarde un petit peu ce qui te ferait plaisir. Il a vu ce livre et il a fait, oh non, je veux pas voir ça.
Avec la grimace qui va avec. Poisson Fesse est donc publié aux éditions Les Fourmis Rouges et c'est signé Pauline Pinson et Magali Lehuche. Rassurez-vous, on vous met toute la sélection sur l'appli et le site Radio France. Oui, Maxime.
Juste un tout petit mot, mais Pauline Pinson, donc quand même, moi je la félicite pour le texte parce qu'on parle des illustrations, mais le texte est génial. Et elle a écrit un autre livre qui s'appelle Viking Girl et qui est un roman jeunesse absolument formidable.
Edwige Chirouter, alors pour les plus grands, une BD qui s'appelle Libre de penser, 10 femmes, 10 vies philosophiques de Jean-Philippe Thivet, Anne Hidou Thivet et Jérôme Vermeer, et c'est publié chez Rue de Sèvres. Libre de penser, 10 femmes, 10 vies philosophiques.
Oui, une super BD, effectivement, ben pour redécouvrir toutes ces femmes invisibilisées dans l'histoire de la philosophie, car oui, les femmes peuvent aussi faire de la philosophie, comme les enfants. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est les mêmes arguments qui ont présidé à l'exclusion des femmes de l'enseignement de la philosophie que les arguments qui président aujourd'hui à l'exclusion des enfants ou des classes populaires. Voilà, elles auraient une nature qui serait naturellement sensible, trop sensible, immature. La philosophie serait salie si jamais elle se mettait à philosopher. On dit la même chose des enfants ou des classes populaires. Et là, c'est une très très belle BD, très drôle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est aussi extrêmement drôle, mais pour redonner de la voix à ces femmes.
Donc ça s'appelle Libre de penser et c'est publié chez Rue de Sèvres. Lucie Cosmala, racontez-nous votre plaisir après avoir lu la balade magique de Baumery, Toute une montagne. C'est signé Loïc Clément et Anne Montel et c'est publié chez Glénat Jeunesse.
Oui, alors Baumery, c'est un village plutôt tranquille où on aime bien ne rien faire. Voilà, il n'y a pas d'événement majeur et c'est bien comme ça. Sauf qu'un jour, dans la vie de Judith, une petite souris, elle va découvrir son pauvre grand-père la tête dans son bol de semoule. Ah. Donc elle comprend qu'il y a un petit problème.
C'est embêtant, oui.
Elle court voir le grand touilleur. Le grand touilleur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le fait de touiller les herbes médicinales. Donc c'est un petit peu le médecin d'à côté qui lui dit écoute, pour pouvoir soigner ton grand-père, il va falloir que tu ailles trouver une fleur qui se situe en haut d'une montagne. Donc la pauvre petite souris, quand elle est en bas de la montagne, elle se dit alors moi je dois monter tout ça en fait. Comment je vais faire? C'est impossible. Mais donc le grand touilleur va lui conseiller d'aller voir un de ses amis qui a déjà fait le voyage et donc elle va aller le voir et en effet elle va partir en expédition avec cet individu qui dit mais je connais le secret pour aller trouver cette plante, il faut qu'on aille chez tel ami. Et en fait au fur et à mesure de la rencontre avec ces différents personnages, elle va gravir au fur et à mesure la montagne, jusqu'à arriver tout en haut avec une équipée assez étonnante où dans l'eau, il y en a un qui adore faire des blagues, il y en a un qui a toujours des petites chansons pour tenir tout le monde dans de la bonne humeur, etc. Et elle va se rendre compte que finalement, le voyage, il est passé assez facilement quand on le fait petit à petit et quand on est bien entouré. Donc je trouve que c'est un album absolument magnifique illustré par Anne Montel, dont j'ai déjà parlé ici, dont je suis une fan absolue, tellement c'est doux, tellement même la langue aussi de Loïc Clément est magnifique parce qu'il a ce don, rien que le grand touilleur, Baumery, etc. Il y a quand même, enfin, je trouve que c'est une langue absolument savoureuse. Et c'est un très très bel album pour parler de solidarité, d'entraide et du fait qu'on a aussi besoin des autres pour avancer dans la vie.
Rappelez le titre, Lucie Cosmala.
La balade magique de Baumery, Toute une montagne.
Merci beaucoup. Titu Lecoq, donc, vous dirigez la collection Le Livre de mes 10 ans, Le Livre de Poche Jeunesse. Mais vous, à l'âge de 10 ans, c'était quoi le roman qui vous a marqué?
Alors, je lisais beaucoup, donc Le Perroquet qui bégayait m'avait pas mal marqué.
Hitchcock.
Sinon, j'ai adoré Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse. Mais vraiment, ça m'avait transportée. Et avec un petit truc où je pense que c'était un très gros livre. Et les adultes me disaient, tu vas jamais le finir. Et ce petit défi fait que j'ai mis un point d'honneur à finir ce livre.
Julien Bisson, ça vous parle, Le Capitaine Fracasse?
Oui, Le Capitaine Fracasse, évidemment. Le roman de la momie, Théophile Gautier, c'était quelqu'un un auteur vraiment important aussi à cet âge-là. Ouais.
Il est 10h40, l'heure de retrouver la dernière chronique de la saison de Julien Bisson, Ma vie de parent.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, mon cher Julien Bisson, vous vous demandez ce matin si ce que nous faisons dans cette émission ce matin n'est pas un peu vain.
Bon,
merci.
Alors, attention, mon cher Ali, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et surtout pas pour ma dernière chronique de la saison. Je risquerais de ne pas être réinvité l'an prochain. J'adore vos émissions et j'admire le travail de tous les formidables soutiens du livre réunis dans ce studio. Vous êtes des passeurs essentiels pour nourrir ce goût de la lecture dont on ne répétera jamais assez à quel point il participe à la construction affective et intellectuelle de nos enfants. Ça, c'est pour mon discours type ministre de la Culture. Bon, du moins si j'étais un ministre de la Culture qui passait plus de temps à défendre les livres qu'à attaquer le service public. Mais revenons à nos moutons. Non, ce qui m'interroge, c'est plutôt notre prétention à décider des futures lectures de nos enfants. À croire dur comme fer que c'est nous, parents, grands-parents, professeurs et autres adultes de bonne volonté, qui sauront mettre entre leurs mains les meilleurs livres possibles, qu'il nous suffira de savoir ce qui est bon pour eux pour leur fournir un programme de lecture de leurs 7 à leurs 17 ans.
Mais vous ne pensez pas qu'on peut conseiller un livre à un enfant ?
Ah, le conseiller, si. Le faire lire à tout prix, c'est nettement plus difficile, passé un certain âge en tout cas. Et il ne vous aura pas échappé d'ailleurs que lire est un verbe qui s'accorde mal à l'impératif. Mange tes carottes, bois ta soupe, mets ton manteau, tout ça, c'est encore du domaine du concevable. Mais lis deux chapitres de ton roman, c'est nettement moins efficace. Parce que la lecture est de ces activités mystérieuses qui se font dans le secret de nos cervelles et nulle part ailleurs. Pas plus qu'on ne peut vous interdire de penser, on ne peut vous forcer à lire. C'est d'ailleurs sans doute ce qui fait que c'est un pouvoir si précieux. Mais cela veut aussi dire que vous aurez beau arriver avec le livre le plus formidable qu'on vous ait recommandé, si votre enfant ne veut pas le lire, vous aurez bien du mal à l'y forcer.
Alors comment on s'y prend pour leur faire lire des livres qui nous plaisent à nous?
D'abord, tout n'est peut-être pas perdu. Vos enfants ont peut-être encore un peu confiance en vous et en vos recommandations. Même si je vous avoue que passer 8 ans, c'est quand même pas le plus probable. Surtout si vos conseils de lecture ont à peu près votre âge. J'ai beau répéter à mon fils que si, le Clan des Sept et la série des Michel, ça se lit encore très bien, et que j'adorais ça à son âge, il lui suffit d'un regard vers le rayon Bibliothèque Verte pour rebrousser chemin. Alors, comment faire ? À ce problème, je vois 3 solutions. La première, c'est celle que connaissent le mieux nos amis libraires. C'est encore de s'appuyer sur leur goût. Tu as aimé Harry Potter ? Alors pourquoi pas découvrir la saga La Croisée des Mondes de Philippe Pullman ? Tu préfères Roald Dahl ? Il y a des choses qui devraient te plaire chez Timothée de Fombelle ou David Walliams. Tu as fini les 112 tomes de One Piece ? Eh bien, il est peut-être temps d'ouvrir un manga d'Osamu Tezuka, et ainsi de suite. Ce qui nous amène à la deuxième solution, la patience. Car s'il n'y a pas forcément un âge pour chaque livre, il y a parfois un bon moment. Mon fils me regardait avec des yeux ronds quand je lui ai acheté le premier tome des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, de Lemony Snicket. Peut-être parce que dans le titre, il y avait Désastreux Orphelins et Baudelaire. Et puis, 6 mois plus tard, il l'a ouvert un soir dans sa chambre sans que je dise un mot. Et depuis, il en redemande. On achète tous les tomes les uns après les autres. Donc, laissez traîner des livres, oubliez les prêts de leur lit. Ils trouveront bien le moyen d'y grimper tout seul. Et enfin, troisième et dernière solution, le renoncement. Eh oui, car le plus beau dans tout cela, c'est peut-être quand nos enfants se mettent à lire des livres qu'on n'aurait jamais choisis pour eux. Des mangas sans fin, des sagas fantastiques au vocabulaire improbable, ou même des romans dont on ne comprend pas, nous, l'intérêt. L'important, c'est qu'eux le comprennent. L'autre soir, j'ai trouvé mon fils en train de lire dans son lit. Il avait la lampe de poche ou la couette, comme dans les livres, justement. Il lisait une BD qu'un copain lui avait prêtée et dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai failli lui dire d'éteindre, puis j'ai refermé la porte. Parce qu'à ce moment-là, il valait tous les conseils de lecture du monde. Et moi, il ne me restait plus qu'à me taire.
Oh, c'est mignon comme tout, mon cher Julien Bisson. Qui a envie de réagir autour de la table, Edwige Chiroutère ?
Ben oui, la littérature, c'est une rencontre, en fait. C'est comme une histoire d'amitié ou une histoire d'amour. Il y a des formes d'alchimie. Pourquoi, tout d'un coup, on rencontre un texte et puis ça ne nous parlait pas quand on avait 10 ans et puis on le rouvre 5 ans plus tard et puis là, ce fut une révélation. Comme quand on conseille un livre aussi à un ami, un adulte, et puis on dit « Ah, lis ça, c'est génial !» Et puis « Oh, bon, quoi, voilà.
» Titu Lecoq.
Et, non mais Julien n'a pas évoqué la lecture à voix haute. Moi, je fais toujours ça avec mes enfants. C'est, par exemple, la Comtesse de Ségur, c'était essentiel pour moi. Il fallait qu'ils aient lu la Comtesse de Ségur et je sentais que, tu vois, deux petits garçons, j'allais leur filer, ils n'allaient jamais l'ouvrir. Donc, je leur ai lu en faisant tout un rituel. C'était dans leur chambre, on éteignait toutes les lumières. On éteignait toutes les lumières et c'était juste à la lueur de la bougie. Mais juste le fait d'allumer la bougie, j'avais créé un événement et on a fait Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et voilà.
Lucie Cosmala.
Oui, cette émission, elle tourne autour du fait que la littérature jeunesse aide les enfants à penser le monde, mais je trouve aussi que les lectures de la jeunesse nous aident à penser la jeunesse. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup en tant que professionnelle, notamment avec cette mode absolue des mangas, ou même en ce moment de la romance, voire de romance un petit peu plus sombre. Et forcément, ça me questionne de me dire, bon, outre ce que je peux en penser, moi, d'un point de vue personnel, professionnel, je me dis qu'il y a quand même quelque chose dans ces lectures qui happe les enfants. Et je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser et d'y réfléchir par rapport à tout ce qu'on leur propose à côté.
Merci pour ces chroniques cette saison, Julien Bisson. J'espère qu'on se retrouvera saison prochaine pour Ma vie de parent. Et en attendant, en attendant la saison prochaine, vous pouvez podcaster tous les épisodes sur l'appli Radio France.
Tu sais quel est ton problème, Charlie Brown ? Tu n'as pas de philosophie personnelle.
Grand bien vous fasse.
Tu dois développer ta propre philosophie pour t'aider à surmonter les périodes de stress. Tu peux faire ça
sur France Inter.
Julien Bisson, vous voulez revenir la saison prochaine ? Alors arrêtez de vous moquer de mon anglais, s'il vous plaît, quand je désannonce les disques. Hein ? Bon, allez, tiens, on parlait hors antenne d'un auteur qu'on a adoré quand on avait 10-11 ans, Julien Bisson, Titu Lecoq. On partage un grand amour pour E égale MC2, mon amour du grand Patrick Cauvin. C'est vrai que c'est une lecture géniale à cet âge-là, oui, Julien Bisson.
C'est un roman formidable qui raconte l'histoire d'amour entre deux surdoués qui sont un peu justement différents, qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur place et qui d'un seul coup, par cette rencontre, vont trouver un sens à leur vie. C'est une introduction au sentiment amoureux, à la rencontre de l'autre, à la découverte aussi de ces différences. Moi qui m'avais profondément marqué, et avec E égale MC de mon amour et sa suite qu'il avait écrit bien plus tard, qui s'appelait Pythagore, je t'adore.
Titu Lecoq.
Ah, je valide aussi, mais moi aussi j'ai adoré, je sais plus, je pense que j'étais en 6e à peu près.
Pareil.
Et je l'ai fait lire à mon fils quand il était en 6e et ça a marché pareil. Donc
E égale MC2 Mon Amour, c'est publié au livre de poche et c'est absolument génial. Maxime Massol, parmi vos choix, Jour scintillant, c'est un album écrit et illustré par Morgane Bellec et c'est édité au Diplodocus et c'est à partir de 3 ans. Sans limite d'âge.
Oui. Alors, c'est un album qui est le premier tome de la trilogie Rivage chez le Diplodocus. Alors, il n'y a pas de dinosaures dedans, je suis désolé, mais il y a plein de belles choses. Ça met en avant la nature et les sensations qu'elle nous offre. Donc, c'est un beau programme. Moi, je découvre le travail de Morgane Bellec avec cet album et je trouve ça absolument magnifique. Le texte, en fait, c'est une déclaration d'amour au soleil. C'est plein de poésie. C'est très adapté à la lecture à haute voix. C'est simple, c'est immédiat. Je pense d'ailleurs que ça peut autant plaire à des petits à partir de 3 ans qu'à des adultes, parce que c'est un vrai beau poème. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que la poésie en littérature jeunesse, pour pouvoir rallier un petit peu tout le monde, pas toujours facile. Et les illustrations au crayon sont très douces, c'est un style réaliste qui fonctionne très bien. On voit et on sent la chaleur du soleil sur la peau, les rayons qui brillent sur l'eau, les reflets de la lumière. Voilà, moi je suis entièrement charmé par cet album contemplatif qui sent les vacances et les jours d'été.
Rappelez le titre, Maxime Massol.
C'est un titre très beau, Jour scintillant, de Morgane Bellec, chez le Diplodocus.
Edwige Chirouter, vous avez choisi Moi et rien, de Kitty Crowther. C'est aux éditions Pastel. Moi et rien.
Absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment un très très grand classique. Il parle d'un thème qui n'est pas forcément facile, c'est la mort justement, c'est le deuil. C'est une petite fille, Lila, qui a perdu sa maman. Et elle a comme un ami imaginaire qu'elle appelle Rien et qui l'accompagne dans tout ce travail de deuil. Et il y a une fin qui est extrêmement énigmatique, bouleversante et qui permet d'animer de magnifiques ateliers philo justement sur cette différence entre vivre et exister.
Magnifique. Ça s'appelle Moi et Rien de Kitty Crowther. Titu Lecoq, je vous laisse défendre l'un des livres de votre collection, hein, le livre de mes 10 ans. Je rappelle le principe, une autrice, un auteur choisit le livre qui les a marqués quand ils étaient en CM2, donc à l'âge de 10 ans. Donc il y a par exemple Le Château des Enfants Volés, c'est le choix de Mona Achollet, c'est un livre de Maria Grippe, Le Perroquet qui bégayait d'Alfred Hitchcock, le choix de Nicolas Mathieu, ou encore Le Fantôme de Canterville. Là, c'est le choix de Marie Dariussec, Le Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde.
Je vais en choisir un dans les quatre, c'est ça ?
Non, ce que vous voulez.
Non, alors moi dans...
Il y a le choix d'Alice Zéniter également.
Ouais.
Virus, livre 3 ou La mort des livres de Christian Grenier.
Alors c'était pas, je leur ai pas donné de consigne vraiment quand je leur ai dit donnez-moi 3-4 titres qui vous ont marqué, etc. Après il y a des questions de droit de catalogue, donc il fallait que je voie si le livre de poche avait bien les titres. Et au final, sans que j'ai du tout fait attention à ça, on se retrouve avec des titres qui sont très différents, y compris en termes de registre littéraire. Parce que Alice Zéniter, par exemple, elle a choisi un livre de science-fiction. Gaëlle Fay, c'est donc Agatha Christie, on est sur du roman policier, alors pour le coup plutôt adulte, pas du tout spécialement jeunesse. Mona Chollet, c'est un conte de fées dont elle parle au début de son livre Sorcière, et elle dit que si elle s'est intéressée aux sorcières, c'est sans doute parce que quand elle était petite, elle a lu Le Château des Enfants Volés, et que dedans, elle avait rencontré Floppy le Redoux. Et c'est le nom de la sorcière, mais rien que ce nom est absolument extraordinaire. Et Nicolas Mathieu, c'est donc alors ce sera un roman, c'est à la Hitchcock, donc c'est un peu, même si en vrai il n'a pas été écrit par Hitchcock, hein, mais je le raconte à la fin du livre.
Le perroquet qui bégayait.
Le perroquet qui bégayait, c'est signé Hitchcock, il y a un avant-propos de Hitchcock et Hitchcock apparaît dans l'histoire. Mm-hmm. Mais en vrai, je pense qu'il n'a jamais ouvert ce livre, il a juste signé pour toucher l'argent.
Et d'ailleurs, il y avait une collection, je crois, Alfred Hitchcock à la Bibliothèque Verte, si mes souvenirs sont bons. Et nous accueillons Christine de Royan. Bonjour Christine, bienvenue.
Bonjour.
Vous habitez donc Royan et racontez-nous un petit peu le livre que vous avez adoré petite et que vous avez essayé de faire lire à vos enfants.
Alors, adorer, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est le premier livre qui m'a fait autant pleurer, en fait. Mmh. Et c'était La case de l'oncle Tom. Mmh. Parce qu'on était évidemment en plein dans l'esclavage et que c'est quelque chose de très, très dur comme thème. Mmh. Et ce livre m'a beaucoup marqué, en fait, à tel point que j'y pense toujours avec beaucoup d'émotion. Et effectivement, j'ai essayé de le faire lire à mes enfants. Enfin, j'ai pas essayé. En fait, je l'ai relu. Quand mes enfants avaient cet âge-là, à peu près 9, 10, 11, 12 ans, et je me suis dit que c'était pas possible de leur faire lire, parce que d'abord c'était vraiment trop dur, je ne me voyais pas en train de leur faire lire ça, en me rappelant, moi, comment ça m'avait, dans quel état ça m'avait laissé, en fait. Et ensuite, j'ai trouvé que la traduction était très datée. Mm-hmm. Parce que moi, entre-temps, je l'ai relu en anglais, parce que je suis devenue traductrice, entre-temps. Mm-hmm. Et donc, le problème ne se posait pas du tout de la même façon dans le texte, bien sûr. Mais en français, c'était dans un style quand même encore très grammaticalement compliqué, assez ampoulé, avec... Mm-hmm. d'imparfait du subjonctif, un style que les enfants de nos jours ne lisent pas du tout. Donc c'était pas possible pour toutes tes raisons. Et voilà.
Bon, mais c'est la case de l'oncle Tom et c'est signé Harriet Beecher Stowe et on peut le lire chez Folio Junior. Merci de nous avoir appelé, Christine. Tiens, dernier choix. Il nous reste une poignée de minutes. Maxime Massol.
Oui, alors que vous conseillez en deux mots, le meilleur voyage de toute ma vie. Une bande dessinée de Dan Santat chez Rue de Sèvres à nouveau. C'est vraiment une bande dessinée que j'ai trouvée géniale sur un jeune garçon en 1989 qui part des États-Unis pour un voyage scolaire en Europe. Et ce voyage va effectivement changer sa vie, l'ouvrir aux autres, lui faire découvrir l'amour. C'est absolument super, hyper émouvant et tendre. Et donc inspiré de la vie de l'auteur à la fin avec des photos du voyage, des petites anecdotes. C'est vraiment pour moi la BD à offrir à tous les ados là pour cet été.
Il faut préciser qu'il fait un tour de l'Europe. Hein.
Un tour d'Europe, oui, tout à fait. Il passe par la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre. Donc en 1989 en plus, donc c'est drôle parce qu'il y a tout un décalage avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et il l'explique d'ailleurs très bien à la fin. Il explique qu'il remet en contexte certaines choses parce qu'il se retrouve à boire de l'alcool, à être coursé par des punks. Enfin bref, voilà, on est quand même dans un autre univers. Mais
je pense que je vais le lire parce qu'à cette époque-là, j'ai fait le même genre de tour de l'Europe. Oui, je vais le relire.
C'est vraiment super.
Ça s'appelle Le meilleur voyage de toute ma vie de Dan Santat et c'est publié chez Rue de Sèvres. Un dernier conseil peut-être, Titchou, le coq, ça s'appelle Akali Cochon. Akali Cochon.
Les titres, c'est, alors pour moi, devrait
les titres de vos choix, Titchou le coq, Poisson fesse, Akali Cochon, c'est publié chez Kaleidoscope et c'est signé Anthony Brown. Oh,
ouais. Magnifique.
Alors Akali Cochon. C'est un grand classique et c'est l'histoire d'une mère, enfin c'est une famille vraiment tradie, le père, la mère, les deux fils. Et un jour, la mère, elle en a marre de se taper toutes les corvées ménagères et elle s'en va. Et elle les laisse. Et en fait, au fur et à mesure, ils se transforment en cochons. Et donc, la maison devient dégoûtante. Ils sont, eux, répugnants. Ils s'enferment dans le truc. Enfin, c'est génial. Et elle va revenir et ils vont trouver un système plus équilibré. Mais même la couverture est hyper belle parce qu'on la voit, elle, en train de les porter, les trois, sur son dos. Et donc, c'est vraiment pour les petits. Mais c'est une bonne introduction au sujet du partage des tâches ménagères.
Tous les livres d'Anthony Brown sont fabuleux.
Et tous les livres d'Anthony Brown.
Et c'est une réédition, hein, parce que ça a paru en 1986 aux éditions Flammarion, Akali Cochon d'Anthony Brown chez Kaleidoscope. Merci beaucoup Edwige Chirouter. On vous retrouve dans l'heure philo de notre très chère Patricia Martin ce vendredi à 20h. Merci Titchou Lecoq, merci Maxime Massol, Lucie Cosmala. Votre collection, je le précise, le livre de mes 10 ans, ça sort début juillet.
Oui, le 2 juillet.
Le 2 juillet, c'est idéal pour les vacances. Toute la sélection et les références bibliographiques, je vous ai remercié, Lucie Cosmala.
Mais oui.
Mais bon, je perds la tête en cette fin de saison. Toute la sélection et les références bibliographiques sont à retrouver sur l'appli et le site Radio France.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.